Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale, nouveau podcast et nouvel invité. C'est le deuxième grand maître international qui nous rejoint sur le podcast. Mais oui, on a des grands maîtres aussi sur Fréquence Diagonale. C'est Fabien Libizouski. Salut Fabien.
Salut Stéphane.
Alors comment on dit exactement Libizouski, Libizewski, comment on dit
Alors la prononciation polonaise, vu que c'est un nom d'origine polonaise, on dit Libizewski. Parce que SZ, ça se dit CHE,
ouais.
Mais sinon, à la française, Libizewski, ça va aussi.
Alors Fabien, tu es un des grands maîtres internationaux français, donc tu fais partie du GOTA mondial du jeu d'échecs, hein, parce que les grands maîtres, on l'a vu, c'est pas très nombreux sur la planète, hein. Il y en a un peu plus de 1000, hein, 1400 environ, et tu fais partie des 600 meilleurs. Donc tu as une carrière maintenant aussi qui commence à être remplie, quoique bien sûr il y a encore beaucoup d'années devant toi. Tu es encore un jeune grand maître en progression. Et alors on va voir ta carrière, et puis aussi bien sûr on fait ce podcast, on ne va pas se cacher non plus, pour une raison supplémentaire, hein, outre le fait que tu as cette très belle carrière de grand maître qu'on va voir en détail. Tu es aussi à l'affiche, hein, d'un film qui est en train de sortir, Le Tournoi, un film dédié au jeu d'échecs. Hein.
Ouais, tout à fait.
Donc on va revenir là-dessus, évidemment, en détail, en troisième partie de ce podcast. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu ta carrière de joueur d'échecs. Alors, t'as démarré à quel âge et d'où tu viens, en fait, aussi?
Alors, bon, en fait, je viens de Saint-Étienne, un petit village à côté.
Ouais.
Et en fait, j'ai commencé à jouer très très tôt. C'est mon père qui m'a appris, parce que lui-même, en fait, est joueur.
Ouais.
Donc, pas très grand niveau, quoi, mais il a, disons, autour de 1600, Elo. Et, en fait, donc, c'est lui qui m'a appris à jouer quand j'étais tout petit, il m'a amené avec lui au club d'échecs. Donc, en fait, j'ai toujours grandi avec les échecs.
D'accord. Et alors, où c'est que il t'a amené au club, alors comment ça s'est passé?
Ouais, c'est ça, au club d'échecs à Saint-Étienne. Mais en fait, bon, ça, moi, je me souviens pas, mais c'est lui qui me racontait que même il me changeait mes couches au club, quoi.
Oui, d'accord.
Donc, je pense que ouais, j'ai passé beaucoup de temps autour des échecs.
Ah, donc ça veut dire qu'en fait, tu étais déjà dans le milieu échiquéen avant même de t'en rendre compte. En fait, t'as pas fait un. Tu baignais dedans naturellement, en fait.
Voilà, c'est ça, exact. Alors après, disons, c'est pas une région très active pour les échecs.
Ouais.
C'est pas comme Paris ou peut-être la Côte d'Azur ou l'Alsace. Saint-Etienne, c'est. Ouais, il n'y a pas tellement de joueurs. Enfin, c'est un club, je pense, qui est en 4e ou 5e division actuellement. Mais bon, voilà, donc j'ai eu la chance que mon père m'ait initié. Il aimait ce jeu, il m'a transmis sa passion. Et donc, voilà, donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et puis donc, grâce à mes parents qui m'ont amené en tournoi ensuite, j'ai pu jouer, quoi.
D'accord, donc toi, c'est pas venu par l'école, hein, t'as pas appris à l'école, il n'y avait pas forcément d'activité échec à l'école.
Non, pas du tout.
D'accord, donc c'est plutôt une aventure au club. Et comment tu as progressé? Alors, est-ce que tu as lu des livres? Comment tu t'es captivé pour le jeu? Comment c'est venu, ça?
Donc je pense que mon père m'a transmis sa passion, etc. Il était abonné à Europe Échec depuis de nombreuses années, donc en fait, j'avais déjà pas mal de matériel, même des vieux Europe Échec, quoi, des années 80, par là. Où je pouvais revoir les parties. Et puis, à l'époque, en fait, on n'avait pas d'ordinateur. Donc, effectivement, j'ai lu pas mal de livres, je pense, quand j'étais petit. Et même si c'était pas moi qui les lisais directement, je sais que mon père m'a aidé. Par exemple, il me posait des diagrammes que je devais résoudre, ou même, par exemple, qu'il y avait des livres qui n'étaient pas forcément traduits, comme les livres de Dvoretsky, on va dire. Moi, petit, je pouvais pas vraiment comprendre l'anglais, et donc, on les lisait à deux. Lui, il avait le livre, moi j'étais de l'autre côté de l'échiquier, et il me demandait, là, qu'est-ce que tu jouerais, etc. quoi. Donc, ça a un peu été comme ça quand j'étais jeune.
D'accord, donc c'est fusionnel avec le paternel, donc il y a vraiment une histoire avec le père.
C'est lui, pendant longtemps, qui m'a aidé, on va dire. Ouais.
D'accord. Et comment... Comment t'es venu la passion ou l'envie de gagner? Parce que bon, t'aurais pu apprendre à jouer et puis te dire bon, c'est une activité comme une autre et passer à autre chose. Alors pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché? Est-ce que t'as senti à un moment donné que c'était ça que tu voulais faire?
En fait, je me souviens pas exactement, mais je crois que j'aimais vraiment bien. Hein. C'est-à-dire que je me souviens que des fois, je me mettais dans ma chambre par terre avec un échiquier, je prenais un Europe Échec et puis je regardais les parties, je faisais l'effet de boule à main, des trucs comme ça, tout seul. Donc personne ne me forçait, quoi, j'ai envie de dire. Je pense que c'était vraiment une passion. Après, ça n'a pas trop mal marché assez vite. Je sais que, disons, j'ai pris ma première licence quand j'avais 8 ans.
Ouais.
Enfin, entre 7 et 8 ans. Et mon premier Elo était déjà 1620.
Ouais.
Donc je pense que maintenant, il y a peut-être des jeunes plus forts que ça, mais à l'époque, c'était déjà très bien, quoi.
Bah oui, 7-8 ans, 1620, c'est déjà pas mal, oui.
C'était en 92. Voilà, donc j'avais 8 ans. Et en fait, voilà, comme je disais, la région là-bas est pas très active, donc en fait, il n'y avait pas vraiment de jeunes. Donc j'ai direct commencé à jouer contre les adultes, à faire le championnat de la Loire, vu que Saint-Etienne, c'est dans le département de la Loire.
Ouais.
J'avais fait les championnats de ligue, mais bon, c'était bien passé. J'avais fait 5 sur 5 assez facilement, je me souviens. Et je m'étais qualifié donc pour le championnat de France à Suité-sur-Erdre, donc en 1992.
Le championnat de France jeune, là, ou le championnat de France, oui?
Non, jeune.
Ouais. Jeune, hein, d'accord. Donc là, tu as commencé à faire les championnats de France jeune. Tu en as fait combien en tout de championnats de France jeune?
En fait, j'en ai raté aucun entre 92 et 2004. Je sais que j'ai atteint la limite d'âge. Donc, je ne sais pas faire 13, 12, 13, je sais pas trop.
Ah ouais, donc ça fait une belle aventure chez les jeunes, ça.
Ouais, bah de petit poussin jusqu'à junior.
D'accord. Alors là, donc, je sais que tu as un joli palmarès chez les jeunes, même si tu n'as pas réussi à décrocher un titre national, tu as quand même eu de beaux, beaux résultats, on peut dire. Hein.
Ouais, bah alors j'ai fini 3 fois vice-champion de France, 1 fois 3e aussi, et puis plusieurs fois 4e ou aux places d'honneur.
Ouais.
Mais en fait, je crois que j'étais très fragile moralement. J'étais émotif dans les parties importantes quand j'étais jeune. Et en fait, souvent, je l'ai raté, en fait. Je me souviens, par exemple, ce premier championnat de France, là, en 1992. La dernière, en fait, c'était que en 7 rondes, à l'époque, en petit poussin. J'avais 5,5 sur 6, et je jouais contre Sébastien Planter, qui joue plus trop maintenant, mais qui a eu beaucoup de titres de champion de France jeune. Et lui avait 6 sur 6. Et donc, partie importante, disons, le vainqueur allait être champion de France. Et même en 4 nuls, ça me permettait d'être sur le podium. Mais j'avais perdu en faisant une partie très très mauvaise, j'avais les blancs. Et je me souviens que même avant la fin de la partie, je commençais à pleurer, j'étais parti aller m'enfermer dans les toilettes, j'avais honte ou je sais pas quoi.
Ouais, donc t'avais pas réussi à maîtriser cette fois l'aspect émotif qui arrive à tous les joueurs, plus ou moins. C'est pas facile d'ailleurs à maîtriser ça. Hein.
Non, mais je pense que. Bon, sûrement il y en a chez qui c'est inné. Mais moi, c'était pas le cas, donc il a fallu se confronter plusieurs fois à ces situations pour apprendre à les gérer, quoi.
Et bien,
même maintenant, je sais pas si je les gère toujours super bien. Bon, ça va, je crois, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus disposés, en fait, à gérer la pression, quoi.
Ouais, on le voit d'ailleurs toujours, même chez les top joueurs, hein, que tu connais bien. On voit bien qu'il y en a qui sont plus émotifs que d'autres. Hein. Un Ivanchuk aussi, par exemple, il a l'air plus émotif que les autres joueurs, clairement. Donc toi, tu fais partie aussi des joueurs, des grands maîtres émotifs.
Ouais, je pense pas. Bon, disons maintenant, ça fait quelques années où je trouve que ça se passe pas trop mal.
Ouais.
Mais alors, plus jeune, voilà, il y a eu cet épisode en 92. L'année d'après, en 93, donc j'étais en première année poussin, champion de France à Pau. Et là, j'étais très très bien parti, j'avais 6 sur 6. Et j'ai fini avec 7 sur 9, avec nul, défaite nulle. Alors qu'en fait, quand même, je pense que, ouais, si je jouais normalement, j'aurais dû gagner ce championnat de France. Mais voilà, encore une fois, j'étais pas arrivé à surmonter les parties en jeu sur la fin.
D'accord.
Mais j'ai fini vice-champion quand même cette fois, j'étais pas au pied du podium.
Ah, ben voilà, donc
déjà
bon.
Déjà pas trop mal.
C'est déjà une médaille d'argent, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Et ensuite, alors après, les autres catégories?
Ensuite, 94, deuxième année poussin, j'avais encore été vice-champion de France. Mais cette fois-là, je crois pas que c'était dû à un effondrement. J'avais fini deuxième ex aequo et j'avais joué des matchs de départage contre Serge Gaston. Je sais pas s'il continue à jouer ou pas, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Et j'avais gagné 1,5-0,5. Donc cette fois, ça va, j'étais arrivé à gérer le départage, tout ça, donc peut-être j'avais commencé un peu à grandir. Après, il y a eu 95, donc là, je devais être en pupille. Et je sais que ça n'a pas été terrible, je pense que j'avais dû finir 12e ou 9e, je sais plus. Mais c'était moyen. 96, c'était hier. Là, ça a été un peu mieux. Je crois que j'ai fini 4e ex-aequo.
Ouais.
Mon Luçon 97, là, ça a été un gros raté. Là, j'avais commencé peut-être à prendre un peu de retard sur les autres joueurs de mon âge. En fait, j'étais pas encore classé fil. Il y avait déjà beaucoup de joueurs qui étaient peut-être 2100, pas loin de 2200, je sais pas. Il y avait par exemple Arnaud Rinfret qui était hyper fort chez les jeunes.
Mmh.
Et je sais que j'ai fait un mauvais tournoi, j'ai fini autour de la 20e place. Mais je pense que c'était assez mérité en fait. C'était juste vraiment, j'étais pas assez fort. Mais ça m'avait donné une sorte de coup de boost, on va dire.
Ouais, tu as retravaillé à ce moment-là le jeu pour revenir les années suivantes, c'est ça ? Tu as retravaillé le fond de jeu.
Ouais, et puis j'avais refait le répertoire aussi. C'était l'arrivée des ordinateurs.
Ouais.
Et du coup, je m'étais équipé avec. Ok, j'avais pas de chess base à l'époque, c'était chess assistant.
Mmh.
Et je sais que j'avais passé un mois, quasiment en juillet, par là, à faire que travailler le répertoire. À découvrir en fait des nouveaux outils comme l'arbre par exemple ou des choses comme ça qui étaient c'était complètement nouveau, je découvrais tout ça.
Ouais.
Et après j'étais parti jouer donc les tournois, les Open d'été, et là c'était bien passé. J'ai tout de suite fait des performances field. À l'époque c'était pas comme maintenant, hein. Fallait passer 2200 je crois pour passer field ou au moins 2000.
Oui.
Et j'étais rentré feed début janvier, je crois, 98 à 2215.
Et là, tu as quel âge à ce moment-là donc tu...
Là, j'ai 14 ans.
T'as 14 ans, donc déjà, oui, c'est déjà un très très bon niveau. Là, là on sent que là, tu sens que tu peux devenir professionnel à ce moment-là ou comment...
Peut-être pas encore, mais je commence à avoir des résultats intéressants.
Ouais.
Et puis surtout, courant cette année 98, j'ai fait un très très bon tournoi à Bourbon-Lancy. Donc, c'était un Open, Bourbon-Lancy, c'est vers Auxerre, Guignon par là. Ça n'existe plus maintenant comme tournoi, mais c'était un fort tournoi à l'époque.
Ouais.
Où en fait, j'avais battu Bologan.
Ah oui, qui était très fort à l'époque encore déjà.
Ouais, 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 ouais. Bon, il était autour de 2600, il n'était pas encore à 2700, mais déjà, ouais. c'est un exploit. Quoi.
2600, c'est quand même énorme.
Ouais. Et j'avais fait aussi nul contre d'autres grands maîtres. Je me souviens contre Loupou.
Ah oui, qui est aussi.
Contre Komnenovic. Contre la femme de. Christina Foisard.
Ouais.
Et en fait, j'ai failli faire une norme de maître. Mais au final, je ne l'ai pas faite parce que j'avais joué 3 non-fils.
Ah oui. Il fallait jouer. Et il fallait jouer.
Au moins 7.
Ouais, il fallait jouer 7 joueurs déjà classés FID. Hein, pour les auditeurs, j'explique un peu en même temps.
Ouais.
Il faut effectivement, dans un tournoi, faire une performance Elo, et y compris jouer des joueurs titrés d'ailleurs, et faire une belle performance. Mais en plus, il faut un certain minimum de joueurs déjà classés FID. Ouais. D'accord.
Voilà.
Et comment se passent ensuite tes meilleurs résultats jeunes jusqu'à ce que tu puisses plus jouer ces championnats jeunes alors ?
Alors, bon, là on est en 98, en 1999 c'était le championnat de France à Romans. Je sais plus exactement ce que j'ai fait, mais bon, j'ai fini dans les 10 premiers, mais c'était pas un podium.
Ouais.
Après Pau 2000, j'avais fini 4e. 2001, c'était Amiens premier ex-aequo.
Ah ben là c'est voilà, ça s'est joué à rien là, il n'y avait pas de départage à ce moment-là.
Si, mais on était 4 ex-aequo en fait. Il y avait Pavel Gauffian.
Ah oui.
Qui est maintenant maître international, mais qui n'est pas professionnel, mais qui joue très bien quand même. Il y avait Mathieu Bissière.
Ouais.
Qui maintenant est entraîneur. Et Nicolas Templier.
Oui.
Qui a été champion de France plusieurs fois. Et donc on avait fait un mini tournoi à 4, et Pavel a été champion de France, et moi j'avais fini second.
D'accord. Ah, il y a eu quand même un mini tournoi de départage quand même. D'accord.
Ouais, on avait fait donc 3 parties.
Ouais. En rapide alors.
C'est ça, en rapide. Et en fait, je sais que j'avais fini donc deuxième ex aequo avec Nicolas Templier. On a refait un mini match après, juste donc en face à face, et en blitz par contre.
Ah oui, ouais, ça devait être tendu.
Ouais, ouais, ouais.
Donc là, t'es en quoi ? T'es en junior déjà ou...
Non, je dois être cadet.
Cadet, d'accord. Donc on approche là quand même de la
ouais,
de la catégorie phare, parce que On sait que la catégorie junior est importante, elle est cruciale aussi. Oui.
Ouais.
Alors, comment ça se passe en junior?
En junior, il y a une deuxième année cadet en fait avant,
oui.
Où j'avais fini troisième, derrière Mathieu Hacher et Mathieu Cornet. Et donc junior après 2003, au Grand Bornand, je crois que j'ai fini quatrième, encore une fois. Enfin, quatrième ex-aequo, hein, peut-être, c'est un peu plus loin, mais c'est ça les places. Il y avait, je crois que c'est Charles Monroy qui avait été champion de France, devant Anthony Virig et Sébastien Mazer.
Oui.
Il avait fait un match à 3, je crois, de départage. Et moi, je devais être juste un peu derrière, un demi-point derrière, je pense. Et donc après, la dernière année de junior, par contre, j'ai très mal joué. C'était en 2004, c'était à Reims, mauvais tournoi. Mais c'était assez fort quand même. Il y avait Maxime, chez Lagrave, qui était surclassé, qui jouait chez nous.
Oui.
D'ailleurs, j'avais perdu contre lui.
Il avait 13 ans, c'est ça, non?
Je crois qu'il est né en 89-90, alors 2004, ouais, non, ouais, 13-14 ans.
13-14 ans, ouais. Et c'est cette année-là, ouais. il le gagne le championnat
C'est bien possible. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est ce qu'il avait dû gagner. Ouais.
D'accord. Et alors, donc là, tu arrives à l'âge de décision, un peu, là, à 20 ans. Comment ça se passe? Tu décides à ce moment-là de devenir professionnel tout de suite ou tu continues encore un peu les études?
Non, j'ai continué les études.
Ouais.
En fait, j'ai eu un cursus normal hein, jusqu'au bac, sans redoubler, sans sauter de classe ni rien, mais voilà. Donc j'avais fait un bac S, j'avais réussi. Donc ça, c'était en 2002. Et à la rentrée, j'avais fait une fac de maths et informatique appliquée aux sciences.
D'accord.
Mais en fait, j'avais arrêté en cours, ça en 2003. Et par contre, aux échecs, j'avais eu un petit déclic. J'étais passé maître très vite, en 3 mois.
D'accord. Ah oui, t'as passé un... Il y a quelque chose qui s'est ouvert dans ta façon de jouer, alors c'est ça, il s'est...
Oh, ouais, alors je sais pas exactement pourquoi, parce que ça faisait, disons... Donc, comme on avait dit, entre 98 et 2002, j'étais justement autour de 2250, par là, je bougeais pas trop.
Ouais.
Donc, parfois, je faisais des coups d'éclat, mais bon, ça bougeait pas tellement, mon classement. Et puis, d'un coup, je suis passé 2300, et puis c'est monté à 2460 à l'âge de 19 ans. Là.
Ah, ben ça, c'est intéressant, il faut que tu nous expliques. Alors, comment tu l'analyserais aujourd'hui, ça? C'est à force d'accumuler l'expérience et puis l'étude, il y a un moment donné, ça s'est ouvert tout seul ou qu'est-ce qui s'est passé?
Bah ouais, j'ai l'impression que ça se fait un peu naturellement. En fait, donc comme je disais, j'étais à la fac, j'avais arrêté en janvier. C'était pas vraiment une décision, mais en fait justement, il y avait le club de Nao, le Nao Chess Club,
ouais.
Qui organisait des tournois fermés. Et j'avais Jordi Lopez qui m'a appelé, qui me propose un tournoi de maître début février. Et du coup, je me dis ok, donc du coup, j'arrête un peu la fac. Enfin, ouais, j'arrête complètement. je vais faire ce tournoi. Et en fait, ça se passe vraiment bien. Je crois que je fais la norme une ronde ou deux avant la fin.
D'accord.
Voilà, en fait, je pense pas que j'avais fait grand chose pour la préparation. Je sais que j'avais lu un livre qui m'avait bien marqué. C'est un livre de John Nunn, Understanding Chess Move by Move.
Ouais.
Donc, très bon livre que je recommanderais. C'est 30 parties analysées par thème, que ce soit les ouvertures, milieu de jeu, les finales, différents thèmes stratégiques, etc. Et en fait, je sais pas, dans ces parties, en fait, on voit que même les très forts joueurs font quand même des erreurs, des imprécisions. Il faut toujours chercher les ressources, etc. Et peut-être que d'être au courant de ça, ou je sais pas, ça m'a un peu débloqué. Et j'ai fait donc ce tournoi à Nao, et norme de maître.
D'accord. Et là, t'as senti que t'étais en meilleure confiance, c'est ça? T'étais plus
ouais,
détendu?
Ouais, ça aide, parce que un peu avant, j'avais déjà raté une norme ou deux. Pour pas grand chose dans les dernières rondes ou voilà un peu comme d'hab et là donc de la réussir comme ça c'était super et en fait ensuite je suis allé jouer l'Open de Cannes, le festival des jeux là en février,
ouais.
Donc peut-être 2 semaines après et là en fait j'ai fait une norme de grand maître.
Ah oui, ça oui, donc il y a eu un déblocage rapide en très peu de temps en fait hein.
Ouais. Ouais,
parce qu'en plus la norme de grand maître je suppose que ça vaut pour 2 normes de maître, non?
Je crois que ça vaut que pour une, mais ça, on la garde aussi en tant que grand maître pour
plus tard. Elle compte double en fait.
Ouais, d'accord. C'est ça, ouais.
D'accord. Bon, c'est... D'accord. Donc voilà, donc tu as un parcours finalement quand même de, je dirais, de staccanoïste, hein. C'est-à-dire que tu as quand même fait beaucoup de championnats jeunes, voilà, et avec beaucoup d'assiduité. Et puis finalement, on a l'impression que, comme tu le racontes, que tu as accumulé comme ça beaucoup d'expériences, beaucoup d'études, et qu'il y a un moment donné où tout ça, tout ce travail en fait préalable, toute cette accumulation, finit par naturellement finalement produire des résultats à un moment inattendu.
Ouais, bah, je crois que c'est un peu ça. Disons aux échecs, on a rarement un effet immédiat sur le travail. Même si on travaille une ouverture ou une variante, il n'y a pas de raison que l'adversaire rentre pile poil là-dedans le week-end suivant. Mais tôt ou tard, ça arrivera, et puis ça permettra de voir un type de position, de comprendre des choses. Et je pense qu'accumuler, tôt ou tard, ça va servir.
D'accord. Donc alors là, à ce moment-là, tu commences donc disons une carrière plus professionnelle, donc il faut être sans doute plus sérieux aussi. Puis beaucoup de voyages, je suppose. Alors, c'est comment la vie d'un grand maître?
Ah oui, bah c'est ça. Donc c'est beaucoup de voyages, effectivement. Moi, j'aime beaucoup, en fait, aller jouer un peu à l'étranger. C'est-à-dire cumuler le jeu, parce que bon, bah, déjà, j'aime beaucoup ça. Mais aussi donc les voyages, découvrir de nouvelles villes, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Et donc tout ça, c'est quand même un aspect, je trouve, très très positif.
D'accord, donc oui, ça te permet de, effectivement, à la fois de pratiquer ta passion et en même temps de découvrir le monde. Alors on dit aussi que les joueurs d'échecs, souvent, ils restent l'essentiel de leur temps dans les hôtels où ils descendent, donc ils découvrent pas vraiment forcément les pays où ils vont.
Non, ça c'est vrai. En fait, surtout quand j'avais la vingtaine, je cherchais pas du tout à voir ce qu'il y avait autour. Maintenant, j'essaye de faire un peu plus attention, de peut-être rester un jour ou deux de plus, ou arriver avant, pour justement en profiter et voir autre chose que juste la salle du tournoi, le restaurant et l'hôtel.
Oui.
Mais en fait, c'est vrai que souvent, on peut très bien faire qu'un tournoi soit n'importe où, il va se ressembler.
D'accord.
Et on va avoir les mêmes têtes, et puis ça va être un peu pareil. Mais voilà, j'essaye un peu d'évoluer aussi donc, sur ce plan-là, et puis de faire des tournois dans de nouveaux pays.
Oui.
Par exemple, là, j'étais en Crète il y a 2 semaines.
D'accord, ouais, très bel endroit. Très bel endroit, la Crète, oui.
Ouais, c'est joli, ouais.
Ouais. Et d'accord. Et on va parler aussi, bien sûr, mais avant, on va parler aussi de ton résultat exceptionnel en Islande. Et en Crète aussi, t'as réussi un bon tournoi, je sais pas, j'ai pas pu...
J'ai fini premier ex-aequo, mais c'était pas un fort tournoi.
D'accord, c'était un tournoi de force moyenne, disons, mais c'est toujours ça. Bon à prendre. Hein.
non, mais c'est bien, parce que c'est un peu un tournoi vacances.
D'accord.
Il y a la plage, c'est pas hyper fort, on profite du soleil. C'est agréable aussi, plutôt que d'aller jouer que des joueurs très forts et de se préparer toute la journée.
D'accord. Alors, on va parler aussi de ta passion aussi, avant de faire une première pause, et puis on va revenir sur ta carrière pour voir un peu les grands moments de ta carrière professionnelle après la pause musicale. Mais avant d'arriver là, puis on parlera aussi bien sûr du film, parce qu'on va passer un bon moment aussi pour parler de ce fameux film où tu as joué, que c'est quand même une super expérience que j'espère que tu vas pouvoir nous faire partager un petit peu de l'intérieur. Mais avant ça, je voulais parler d'un aspect sur lequel tu communiques. Hein. On voit sur Twitter, par exemple, tu fais des tweets souvent sur Saint-Étienne. Hein. Donc, tu es aussi un supporter de foot. Alors, forcément, tu viens de Saint-Étienne. Alors, on sait, bien entendu, qu'à Saint-Étienne, le foot, c'est comme une religion. Hein, depuis la grande épopée des Verts des années 70 et cette fameuse finale contre les Allemands avec les poteaux carrés. Donc tu as entendu parler sans doute, évidemment tu n'étais pas né, mais je pense que ça continue à hanter les légendes, et puis tu as dû te renseigner sur cette grande épopée des Verts. Et puis alors raconte-nous, c'est quoi, pourquoi tu es comme ça un supporter acharné des Verts, comment ça se passe, c'est quoi la vie d'un supporter de foot quand on est grand maître d'échecs?
pareil, c'est pas trop par choix, je crois, c'est juste, je suis un peu né dedans. C'est vrai qu'à Saint-Etienne, les gens en général aiment beaucoup le foot, c'est une tradition. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était la première fois que c'était mon grand-père qui m'avait amené au stade, mais je devais avoir 6 ans peut-être. Et donc, un peu comme mon père avec les échecs, enfin mon père aimait le foot aussi, mais là donc c'était mon grand-père pour le coup, d'aller découvrir le stade, voir les joueurs en vrai, l'ambiance, tout ça, je suis tombé dedans, on va dire.
Ouais.
Donc, à l'époque c'était quand même très différent de maintenant, hein. Je suivais un peu les matchs à la radio, puis j'étais petit. Mais maintenant, en fait, avec la télé et tout, on peut voir tous les matchs. Et donc maintenant, en fait, j'essaie de suivre ça pas le plus possible. En fait, j'aime bien le football. Et donc, ouais, en plus, à Saint-Etienne, je suis donc particulièrement supporter. Donc, parfois, dans mes tweets, je suis une mauvaise foi. Hein. mais c'est assumé, on va dire. Je cherche pas à faire une analyse de consultant. Hein. C'est,
ouais.
C'est juste très, très pro Saint-Etienne, quoi.
D'accord. Mais tu aimes le foot quand même, t'apprécies. Tu vois un peu de stratégie aussi quand tu analyses le jeu?
Ah oui, je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, moi j'aimerais bien, si j'ai l'occasion un jour, de pouvoir discuter avec quelqu'un de vraiment compétent, peut-être un entraîneur ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas juste 11 gars qui tapent dans un ballon à faire n'importe quoi. Il y a un placement, on peut laisser des espaces mais pas d'autres, enfin, des choses comme ça. Et en fait, on s'en rend pas trop compte quand on regarde juste à la télé.
Ouais, et on se rend compte aussi depuis quelques années, bon, ça fait vraiment quelques années, qu'il y a l'apparition, y compris dans le foot, un peu d'une méthode un peu américaine sur le sport, c'est-à-dire les statistiques par joueur, c'est-à-dire le nombre de passes décisives qu'ils font, des choses qu'on ne voit pas forcément parce qu'on s'intéresse au but en général, ou à certaines actions un peu fortes, mais on ne regarde pas trop les stats des joueurs, mais maintenant il y a les stats aussi qui rentrent en jeu.
Ouais, exact. C'est un peu comme c'est le chess du foot, on va dire.
Ouais.
En plus, j'avais vu un article il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, dans l'équipe, sur aussi la biométrie, qui analyse en fait les performances physiques des joueurs.
Ouais.
Et par exemple, il y a le joueur du Real, Gareth Bale, qui en fait, à la base, n'était pas du tout destiné à une grande carrière. Il était arrière-gauche dans un petit club, et il était relativement médiocre. Enfin, quand même, bon, il était pro, mais... c'était pas un grand joueur, je pense qu'il était même pas forcément en première ligue. Et puis il y a le manager de Tottenham qui en fait avec ses analyses data là, les données, voit qu'en fait il court hyper vite, il a une grande endurance, etc., etc. Et il a l'idée de le recruter, mais pas pour le faire jouer arrière, mais pour le mettre milieu offensif. Et là en fait il se met à tout cartonner, devenir meilleur buteur de première ligue, etc. Et il est transféré pour 100 millions d'euros au Real quelques années plus tard.
Oui, d'accord.
Donc en fait ces chiffres, c'est important aussi, ouais. Après, je pense pas que ça marchera sur tous les joueurs, mais ouais, je sais que c'est un peu à la mode et ils se mettent vraiment à tout analyser avec minutie.
D'accord. Donc ça, c'était pour ta petite partie Saint-Étienne, stéphanois, hein, donc tu es un peu stéphanois, et supporter donc des Verts, je pense que c'était intéressant d'en parler un petit peu. Alors, si tu veux bien Fabien, maintenant on va faire une petite première, une pause musicale, et puis on va revenir ensuite sur ta carrière, un peu plus en détail, ta carrière pro, et puis on finira par donc ce film, Le Tournoi, dont tu vas nous parler aussi. Donc tout de suite...
Okay.
Une pause musicale et on revient tout de suite après sur Fréquence Diagonale. Et nous voici donc de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec donc le grand maître international Fabien Libichowski ou Sofsky ou Zufsky. C'est pas facile de savoir la prononciation. Il nous l'a expliqué en première partie. Eh bien, il nous a raconté son parcours, son palmarès même complet chez les jeunes, année après année. On a pu voir ce qu'il a fait, puis aussi sa dimension de fan d'échecs. Mais on va revenir maintenant sur sa carrière professionnelle. On l'a vu, il fait beaucoup de voyages, il va dans les hôtels, bien sûr, et il visite un peu plus maintenant, d'ailleurs, les pays où il va. Mais alors, on veut savoir aussi, bien sûr, en France en particulier, quel est ton palmarès, Fabien, notamment par rapport à nos grands événements en France. Alors, on a nos grands tournois, il y a des grands tournois en France, il y a Capelle-la-Grande, il y a le championnat de Paris, il y a éventuellement d'autres Open, par exemple à Montpellier ou ailleurs. Mais il y a aussi le championnat de France, je suppose, qui fait partie de tes objectifs. Alors, c'est quoi ton histoire avec le championnat de France?
Alors, le championnat de France, j'ai commencé par l'accession en 98.
Ouais.
Et j'ai joué chaque année. Au début, j'étais loin des premières places, mais parce que j'étais moins fort. J'avais commencé donc un peu à postuler pour ces places-là à partir de 2003, comme j'étais passé maître et j'étais dans les meilleurs élos. 2003, je pense, j'avais fini en top 10, autour de la 5e place peut-être. J'avais fini table 1 la dernière ronde, mais sans vraiment d'espoir de me qualifier. J'avais joué contre Jean-Pierre Leroux, qui lui s'était qualifié, donc je sais que j'avais fait nul à cette dernière ronde. En 2004, j'étais pas passé loin.
Donc là, tu parles de la qualification, en fait, en vue du national, qui est quand même le Graal, on peut dire, c'est le Graal des joueurs d'échecs français, quand même, ce tournoi-là.
Ouais, c'est clair. C'est toujours un objectif et c'est très prestigieux.
Surtout que maintenant, on a, dans ce tournoi-là, avec les joueurs qu'on a en France maintenant, ça fait partie... Le championnat de France, on peut le dire en France, fait partie des plus grands tournois du monde, en fait.
Ouais, c'est vraiment fort.
Ouais, c'est vraiment très très fort.
Bon, peut-être que Maxime ne va plus trop le jouer, mais si tout le monde joue, c'est vraiment fort. Et puis bon, même sans Maxime, déjà avec Étienne, Laurent, maintenant il y a Caramian qui est naturalisé. Ouais. Il y a Istratescu qui peut jouer ou pas, mais il y a Romain aussi qui était 2700 il n'y a pas longtemps, ouais. Qui je pense va y revenir. C'est très fort. C'est vraiment un fort pays d'échecs, la France. Ça a beaucoup progressé en 20 ans, on va dire.
Ah ben oui, parce que moi j'ai connu la France, il y avait que deux grands maîtres et aujourd'hui on en a une bonne trentaine.
Ouais, peut-être même plus que 40, je crois.
Ouais, donc c'est quand même très très fort. Alors donc comment alors ton histoire, alors donc tu as essayé l'accession plusieurs fois et alors est-ce que tu as abouti? Oui.
Ah ouais, ça a abouti en 2005, j'ai fini second.
Ouais.
Et donc je me suis qualifié en 2006 pour le national qui était à Besançon. Le tournoi, le national, c'était pas hyper bien passé. Je crois que j'avais commencé par peut-être 0 sur 4 ou au moins 0 sur 3. J'avais fait nul contre Dorfman, mais une vraie partie, c'était pas né en Dico. J'avais encore dû perdre la 5e contre Christian Boer.
Ouais.
Donc très mauvais départ, 0,5 sur 5. Je le voyais au fond du trou. Et puis là, j'avais un petit sursaut où j'ai fait 2,5 sur 3 en battant Andrei Sokolov. J'avais fait nul avec les Noirs contre Maxime, donc qui n'était pas aussi fort que maintenant, mais qui était déjà quasiment 2600.
Et puis Sokolov, c'est déjà pas mal parce que Sokolov, il faut quand même rappeler qu'il a eu un moment de gloire exceptionnel, ce joueur-là, puisqu'il a été en finale des candidats au titre mondial face à Karpov. Et le vainqueur devait jouer Kasparov. Bon, c'est Karpov qui l'avait emporté, mais il avait réussi à aller au top niveau mondial, échiquéen. Donc, et aujourd'hui, il joue en France. Bon, il est peut-être pas aussi fort qu'à l'époque, mais ça reste quand même une référence.
Ah oui, non, mais c'est un très grand joueur, quoi.
Ouais.
C'est vrai qu'après, avec l'âge et puis les années qui passent, on a sûrement moins de motivation. Disons, il doit pas avoir la même niaque qu'il avait justement à cette époque pour ses matchs contre Karpov ou même avant. Il avait battu du Tupov en demi-finale, etc. Mais ça se voit que c'est quand même un joueur qui a la classe dans son jeu.
Ouais.
Et d'ailleurs, en fait, j'avais pu un peu le côtoyer parce que j'avais joué au club de Mulhouse un petit peu. Mm-hmm. Et j'avais eu quelques cours avec lui. Et ça se voit qu'il a une grande compréhension du jeu, que les finales, il est vraiment fort. Et oui, c'est un très très bon joueur, quoi. Il n'y a rien à dire.
Ouais.
Donc c'est vrai que j'étais content de l'avoir battu.
Ouais, c'est un bon résultat, oui. D'accord. Donc ça, c'était Besançon, donc?
Ouais. Donc, bon, j'avais quand même pas très bien fini, mais pas avec 0 points. J'avais fait 2 victoires, donc contre Andrei et puis contre Igor Natas.
Ouais.
Et puis quelques nuls. Donc, j'avais mieux fini que ce que j'avais commencé. Mais en fait, ça reste ma seule expérience au national.
Donc ça reste un objectif pour toi de revenir pour le jouer, quoi.
Ouais, j'aimerais bien. Après, j'avais fait le National B 2, 3 fois.
Ouais.
Qui, bah maintenant, ça a été supprimé, mais c'était quand même un tournoi intéressant. C'est-à-dire que c'était juste en dessous du National, mais il y avait quand même pas mal de forts joueurs. Et la dernière fois que je l'avais joué, c'était bah, peut-être pour la dernière année où ça existait, je crois. C'était en 2011. C'était à Caen. Et j'avais joué de pas grand-chose, quoi. J'avais fini 3e, et seulement les 2 premiers étaient qualifiés. Et ça avait été Anatoly Weisser et Maxime Lagarde, donc ils s'étaient qualifiés. Mais j'avais fini 3e, et le tournoi était quand même fort, quoi. Il y avait pas mal de grands maîtres. Il y avait Mathieu Cornette, il y avait Tal qui avait joué à Vergel. Il y avait donc. Il y avait Cossin, il y avait Sargère, il y avait Chirazi qui avait joué, Jules Moussard, donc pas mal aussi d'espoir. Donc je sais plus tous les joueurs qu'il y avait, mais c'était quand même un beau tournoi.
D'accord. Alors, et pour jouer ce national, maintenant, tu comptes, parce qu'il y a deux façons finalement hein, d'être qualifié pour ce Graal du jeu d'échecs en France, ce super tournoi qu'est le national en France. C'est on peut être qualifié par le Elo, par le classement Elo, ou on peut se qualifier donc par l'accession. Et alors, tu comptes te qualifier de quelle façon dans les années qui viennent? Est-ce que tu vises plutôt essayer de progresser en Elo et être qualifié d'office, ou est-ce que tu comptes jouer l'accession encore?
En tout cas, cette année, je vais pas faire l'accession. Donc, on va dire, dans les médias, j'aimerais plutôt gagner des points Elo.
Oui.
Mais, disons, c'est pas interdit que je rejoue l'accession. Mais je crois que c'est plus un peu mental. Ça fait un peu retour en arrière. Je sais pas comment l'expliquer.
Oui.
Mais de me retrouver à rejouer l'accession, je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise, on va dire.
Oui, d'accord. Donc tu vises quand même plutôt d'essayer de progresser en Elo, ce qui te donnerait une place d'office. Et il faudrait atteindre quel niveau Elo pour atteindre la qualification?
Je pense qu'il faudrait être au moins 2570, voire plus.
D'accord. Donc c'est accessible. C'est pas
C'est
totalement.
accessible, ouais. Mais c'est pas facile. En
Et non, c'est
plus,
pas
je l'ai
facile.
jamais eu. Donc ça reste un challenge, on va dire.
D'accord, et ça reste ton objectif dans les années qui viennent. Donc on va te suivre et te supporter comme les vers pour que tu passes ce cap du classement Elo qui est effectivement, c'est pas facile de gagner des points. Et surtout, évidemment, plus on progresse, plus c'est difficile.
Oui, on va perdre vite et c'est pas si simple de les gagner. Hein.
Ouais, les points sont plus durs à gagner en haut qu'en bas. Donc, Alors oui, alors pour finir sur ce point de carrière, avant de parler du film hein, qui nous intéresse aussi bien entendu, ce qui nous intéresse aussi c'est ton résultat en Islande, puisque dernièrement, donc tu as fait un tournoi très fort en Islande où tu as fait un résultat tout à fait exceptionnel.
Bah oui, c'est vrai. J'ai fini 3e de ce très très fort tournoi. Où je
Alors,
partais quasiment 30e Elo, je crois, à la base.
ouais, et oui.
C'était vraiment fort parce qu'il y avait. Bon, Mamedyarov était premier Elo. Donc Mamedyarov qui est dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux, qui a joué le tour des candidats l'année dernière, qui là la semaine dernière jouait encore le tournoi du Mémorial Gachimov par exemple.
Oui, il a fait le tournoi où il y avait
Donc,
Carsen, Anand, Kramnik, Maxime aussi qui était qualifié, Maxime Vachilagrad, notre numéro 1 français. Il était là, Mamedyarov. Et là, en Islande, tu as fini devant Mamedyarov, puisque tu finis donc un résultat tout à fait exceptionnel, puisque tu es troisième derrière Ervin Lamy et Pavel Elianov, de top joueurs mondiaux, avec une performance à 2737. Donc là encore, on a l'impression que il y a un déclic qui s'est passé quand même. Hein.
Ouais, bah c'est possible. En fait, depuis, j'ai pas renouvelé les performances comme ça, mais bon, j'ai pas encore fait de gros tournois. Mais c'est vrai que c'était agréable à vivre, on va dire. En plus, j'avais jamais battu de joueur à plus de 2600 jusque-là. C'est assez bizarre, mais j'avais battu des bons joueurs, par exemple, comme j'avais dit, Bologan ou bon, même d'autres. Mais en fait, ils avaient jamais eu 2600 sur le papier quand je les avais joués. Ils les ont eu plus tard, mais j'avais un peu cette barrière-là, peut-être, de je sais pas ce que je faisais pendant les parties, même quand j'étais mieux, peut-être de paniquer ou je sais pas en fait. Mais là, en fait, ouais, j'ai battu Granda Zuniga,
ouais.
qui est peut-être le meilleur joueur sud-américain des 20 dernières années, on va dire, mm-hmm. et autour de 1650. Et puis, Gawain Jones, la dernière ronde, qui ouais. était pas loin des 2700 il n'y a pas si longtemps, là, qui a perdu un peu de points, mais qui reste un très fort grand maître dangereux. Et donc, ouais, faire 2 sur 2 et 2 dernières rondes contre 2 joueurs comme ça, c'est bien, et puis ça donne confiance, ça montre que c'est faisable, et que, ouais, voilà, ça rebooste, on va dire.
Puis ça montre que cet aspect d'émotivité dont tu nous parlais dans la jeunesse, dans tes jeunes années de joueur, sont mieux maîtrisés aujourd'hui aussi.
Oui, bon, en même temps, on va dire heureusement, parce que j'ai déjà une longue carrière, en fait, j'ai que 31 ans, mais ça fait déjà quasiment 25 ans que je joue en compétition, donc c'est plutôt bon signe si j'arrive un peu mieux à gérer ce côté-là déjà,
ouais. Ouais. Donc perf à 2737, si tu faisais que des perfs à ce niveau-là, évidemment, ben, tu aurais ce niveau Elo et tu ferais partie des 15 meilleurs joueurs du monde. Donc on peut dire quand même que c'est quand même un super tournoi, une très très belle performance qui permet de supposer que tu peux encore largement, bien sûr, gagner des points et progresser au classement tant français que international. Hein. Je crois que maintenant tu en es convaincu, je pense.
Oui, bah c'est l'objectif en fait. Mais après, en fait, j'ai toujours eu un peu ça dans ma carrière, c'est de faire un peu des hauts et des bas. C'est-à-dire, en fait, je suis un joueur qui fonctionne beaucoup à l'énergie et j'ai besoin d'être motivé et de tout donner devant l'échiquier. En fait, j'ai du mal à jouer juste avec la main, on va dire. Et en fait, quand tout se passe bien, je sais pas, que j'ai la motivation, le moral, la confiance, en fait, j'arrive à vraiment bien jouer. Comme cette époque là en 2003 par exemple où j'étais passé en 3 mois là de classer FIDE à maître international en gagnant quasiment 200 points Elo. Là enfin c'est pas pareil mais de vivre un truc un peu comme ça où en fait ça se passe assez simplement devant l'échiquier. J'ai pas l'impression de faire des efforts surhumains et en fait les parties se passent très bien. J'arrive à avoir des bonnes positions, trouver des ressources, etc. Et donc ouais, si j'arrive tout le temps à jouer comme ça et que tout se passe bien, j'espère arriver à, disons, à dépasser les 2600. Après, ça sera dur, mais ça serait ça mon objectif.
Ouais, ça serait pas mal, ça serait déjà un magnifique objectif, 2600. Et bien sûr, on est déjà dans les super grands maîtres, hein, puisque grand maître, c'est déjà à 2500 de moyenne. Donc à 2600, on est déjà dans la partie supérieure. Donc... alors, on arrive maintenant à l'actualité du moment, c'est la sortie donc, de ce fameux film dont la réalisatrice est Elodie Namer, qui s'appelle Le Tournoi. Avec, alors, il y a deux acteurs, Lou Delage et Michelangelo, avec un nom, je ne sais plus exactement.
Bassanetti.
Voilà, bon, pas facile. Et, donc, alors, ce tournoi qui a l'air, ce film, donc Le Tournoi, qui a l'air tout à fait passionnant, et donc tu joues un rôle. Alors j'ai vu qu'il y avait, et c'est là que ça va nous intéresser aussi bien sûr, il y a un aspect échiquien fort dans ce film parce que la réalisatrice a indiqué qu'elle avait partagé un petit peu la vie des joueurs d'échecs, donc peut-être tu peux nous raconter ça parce que sans doute elle a passé du temps avec toi. Moi j'ai vu des photos de Mathieu Cornette, j'ai vu des photos de toi, j'ai vu des photos où on voit aussi notre ami Joachim Iglesias. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que des joueurs comme ça extrêmement impliqués dans le jeu qui sont tous professionnels ou semi-professionnels se retrouvent à participer comme ça à l'élaboration d'un film? Alors est-ce que tu peux nous raconter cette histoire un peu?
Ouais, bien sûr, ouais. Alors disons donc Elodie a décidé de faire un film sur le thème des échecs il y a déjà 4 ans, je pense. Je sais plus, elle avait rencontré quelqu'un par hasard qui joue aux échecs, et elle s'est dit, tiens, c'est marrant ce truc, puis elle s'est un peu renseignée, et puis donc elle a eu cette envie de faire un film. Donc, pour le faire, elle a essayé de s'immerger un peu dans le milieu, rencontrer des gens, et elle est venue un peu en tournoi, voir comment ça se passait. Et donc, moi, la première fois que j'ai rencontré, c'était au championnat de France Jeune à Montluçon, en 2011.
Ouais.
Où donc elle était venue, mais donc juste pour voir quoi. Et elle connaissait un peu Anthony Wierig, je sais pas si c'était parlé sur internet ou quoi, et Anthony donc me la présente. Et bah, du coup on fait connaissance, je crois qu'on mange ensemble, peut-être je l'ai amené au casino pour rencontrer un peu d'autres personnes. Et puis bah, on garde contact, donc par téléphone, par Facebook. Et donc en fait, bah, Elodie est intéressée pour rencontrer d'autres personnes, donc moi après je vais prendre d'autres amis à moi. Et puis elle est venue, je sais, à Caen par exemple, pour le championnat de France donc d'été en 2011. Et puis petit à petit dans d'autres tournois, donc elle est venue au Cap d'Agde, une fois elle nous avait suivi en Irlande pour un tournoi donc, où il y avait Sébastien Mazet avec moi, Axel Delorme, et puis un copain de Montpellier qui n'est pas vraiment licencié mais qui aime bien les échecs, donc Rémi Vérune. Et donc voilà, petit à petit elle s'est mise à connaître pas mal de monde. Elle a appris à jouer, elle a pris des cours, elle s'inscrit en club, elle a essayé de jouer un peu des tournois, voir ce que ça faisait, quoi.
Ouais.
Donc elle est en état devant l'échiquier, après une partie, etc.
Alors, est-ce que tu l'as vu jouer un petit peu? Comment elle a vécu ses premières parties?
Elle se débrouille pas mal, hein. Enfin, disons, elle a un bon jeu pour quelqu'un d'amateur. Elle a bien compris les bases, disons, de sortir les pièces, se développer, roquer, occuper le centre, tout ça. Et puis elle voit un peu les petites combinaisons, elle aime bien essayer d'attaquer.
Ouais.
Donc voilà, mais elle peut faire des parties intéressantes. Ouais.
D'accord. Et donc ensuite, alors, comment ça s'est passé le début du film, le tournage? Quel était ton rôle en fait dans cette histoire-là?
Alors, disons, moi à la base, j'étais pas du tout censé jouer dedans, hein, parce que je suis pas du tout acteur. Hein. Juste, donc j'étais plutôt dans un rôle de consultant, moi et donc aussi Joachim.
Ouais.
Qui aussi donc est devenu assez ami avec Elodie. Et donc en fait, le rôle de consultant, c'est plutôt de gérer toute la partie échecs. Donc en fait, on gérait pas tellement donc le scénario, c'était quand même son domaine. Hein. Mais après, c'est-à-dire créer les parties, la structure du tournoi, le niveau des joueurs, toutes les phrases qui parlent d'échecs,
oui,
que ça soit cohérent, quand il parle, qu'il y ait des coups, quoi, peu importe quoi, 4-5 ou peu importe.
Oui.
Voilà, écrire des lignes un peu comme ça, scénario. Et puis des fois un peu du vocabulaire plus échiquien. Je sais pas, par exemple, être cagoulé ou des trucs comme ça. J'ai plus en tête exactement, tu vois, mais...
Oui.
Mais en fait, voilà, des fois Elodie écrivait le truc en français normal, entre guillemets, et demandait qu'on le traduise avec un vocabulaire plus échiquien.
Oui, d'accord. Donc notamment les Zugzwang, le Zeitnot, des choses comme ça aussi.
Voilà. Mmh. Ouais.
D'accord, donc
ouais,
c'est important ça.
Et donc voilà.
D'accord, et alors toi tu te retrouves aussi à jouer un rôle. T'es Aurélien,
ouais,
dans le film, je crois bien, c'est ça, hein?
C'est ça, ouais, Aurélien dans le film. Et ben en fait, une fois que tout a été fini, écrit, etc., après en fait, faut trouver les acteurs pour chaque rôle. Et en fait, Elodie, je crois, avait l'intention, si possible, de faire tourner un joueur ou peut-être plusieurs. Et donc, elle a proposé de passer le casting. Mm-hmm. Et du coup, moi, elle m'a proposé pour ce rôle. Bon, j'y suis allé, mais bon, j'étais pas hyper convaincu, on va dire, à la base. Hein. Et puis même, ça faisait un peu peur, quoi.
Oui.
Mais, en fait, apparemment, ça s'est plutôt bien passé. La directrice de casting était contente, Elodie aussi, au vu des images. Et du coup, ils m'ont proposé donc, de vraiment avoir le rôle. Et puis, j'ai accepté. Quand même, c'est pas une expérience que j'aurais 50 fois dans ma vie, ni une opportunité comme ça, on va dire. Alors, voilà, quoi, je me suis lancé là-dedans.
Ouais.
Et on a eu une dizaine de jours de répétition. Donc, c'était sur Paris, à refaire les scènes, etc., etc. Et ensuite, il y a eu le tournage qui a duré pendant un mois et demi.
Un mois et demi de tournage, d'accord.
Ouais.
Et ça s'est passé vraiment en Hongrie, donc à Budapest, hein, le tournage, c'est ça?
Ouais, exact. En fait, il y a eu en deux temps. Il y a eu peut-être 3 semaines et 3 semaines ou un truc comme ça entre Deauville et Budapest.
D'accord.
En fait, Deauville, c'était des scènes d'hôtel pour la chambre, pour peut-être la salle de repas, etc. Et Budapest, bon, c'était déjà pour les scènes extérieures. Pour les scènes du tournoi en soi.
Ouais.
Et aussi, il y a les thermes ou la piscine, etc. Et donc, tout ça, c'est à Budapest.
D'accord. Alors, je me demandais, moi, quand j'ai vu cette histoire d'hôtel à Budapest, et Budapest comme choix, bon, forcément, on sait, quand on est joueur d'échecs, hein, bien sûr que la Hongrie, c'est un grand pays d'échecs, un très, très grand pays d'échecs. Mais moi, j'ai pensé au tournoi First Saturday. Tu connais ces fameux tournois?
Ouais, je connais bien. Ouais.
Mais est-ce que ça avait un rapport avec ça? Est-ce qu'elle a tourné là-bas à cause de la connaissance de la Hongrie comme ça, pays d'échecs, ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Bon, en fait, je crois que ça l'intéressait que ce soit en Europe de l'Est.
Ouais.
Peut-être pour la symbolique. Et puis aussi, je pense qu'il y a simplement aussi un aspect financier avec les figurants.
Ouais.
C'est moins cher d'être là-bas. Mais donc il y avait les deux dimensions, mais en fait c'était pas forcément Budapest à la base, enfin c'était parmi les choix candidats, on va dire, mais il y avait aussi sinon peut-être Prague qui était possible, mais je sais pas, donc ça s'est finalisé pour être Budapest. Après moi j'étais pas dans je connais pas tous les détails, on va dire, du pourquoi et du comment ça s'est fini comme ça.
Ouais.
Mais en tout cas je sais que c'était une volonté à la base que le tournoi se passe dans une ville de l'Est.
D'accord. Et comment t'as vécu donc après ce tournage, ces scènes, etc. Tu t'es senti comment? Enfin, comment tu as vu ça à l'intérieur, le cinéma, alors, comme expérience, qu'est-ce que tu en retires?
En fait, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa à vivre. Déjà, en fait, je me suis très très bien entendu avec tous les membres de l'équipe, que ce soit les acteurs ou les différents postes techniques. Parce qu'en fait, il y a énormément de monde en fait sur un tournage, on se rend pas compte. Mais ça draine beaucoup beaucoup de monde, et en fait il y a une ambiance très sympa où en fait on vit ensemble quasiment H24. Ça fait un peu l'ambiance d'un tournoi d'échecs, on va dire, où on est un peu coupé du monde extérieur.
Ouais.
On est entre nous, on mange ensemble, on travaille ensemble, on fait la fête ensemble, etc. Et il y a un côté humain comme ça assez fort à vivre en fait, et ça j'ai beaucoup aimé. Après, c'était pas non plus un film avec une énorme production. Enfin, disons, il y avait du monde, mais on n'est pas non plus 200, quoi.
D'accord.
Donc, ça resserre peut-être un peu les liens. Et puis, il y avait une ambiance assez, assez familiale, quoi. J'avais rencontré déjà pas mal de monde avant le tournage, donc avec les répétitions. Et donc, en fait, ouais, tout le monde était assez, assez chouchouté, quoi. On était bien traités, bonne ambiance. Et donc c'était un plaisir de faire ça, quoi.
D'accord. Alors sur ta prestation, moi j'ai étudié un peu hein, ce qui s'est dit sur ce film hein, en détail, parce que je commence à m'y intéresser fortement. Et ça sort demain par rapport à la date à laquelle on enregistre le podcast. Hein.
Oui.
Alors évidemment les auditeurs qui vont écouter ça nous écouteront peut-être dans un an, mais peu importe, donc comme ça on situe l'endroit où on est dans le temps. Mais j'ai vu que ils avaient été scotchés hein, par tes prestations, parce que ils ont fait quasiment que des premières prises avec toi, enfin, en tout cas c'est ce qui est dit, et que il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de prises quand tu étais là. Et donc j'ai vu aussi que donc la réalisatrice, donc Élodie Namer, disait que les deux acteurs principaux, donc Lou Delage et Mikaelo.
Tu peux l'appeler Mickey.
Voilà. demander tous les jours à voir les rushs où tu jouais. Parce qu'ils étaient. Ça les intéressait beaucoup de voir comment tu faisais, parce qu'ils comprenaient pas comment quelqu'un qui n'avait pas pris de cours de comédie pouvait jouer aussi bien.
Ouais, moi, je me suis pas trop rendu compte hein, de tout ça sur place.
Ouais.
Mais en fait, je sais pas, j'ai pris le truc pour essayer d'être naturel, on va dire. Pas juste jouer le jeu, m'imaginer dans la situation et faire comme si c'était vrai, en fait, bêtement.
Ouais.
Un peu comme un enfant quand il joue aux policiers, aux voleurs, machin. Et voilà, en fait, je me suis pas vraiment forcé, je dois dire. Alors après, je sais pas comment dire, s'ils ont été contents, tant mieux, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, enfin, beaucoup d'efforts. Disons, bon, c'est pas... Faut apprendre le texte, faire un peu du travail en amont, mais en fait, oui, j'ai pas eu à souffrir de la présence de la caméra, par exemple. Donc ça, c'est peut-être déjà une chance que j'ai eue, en fait, de pas être intimidé.
Ouais.
Et donc, bah, j'avais pas trop de mal, ouais, devant la caméra, devant les gens. Après, c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est loin d'être évident, on va dire, d'agir plus ou moins naturellement, parce que le cadre est tout sauf naturel. C'est-à-dire qu'il y a une caméra, il y a peut-être 50 personnes, il y a une perche au-dessus de la tête, on sait ce qu'on va dire, on sait ce qui va arriver, donc faut réagir en fonction, mais sans trop y penser avant, parce qu'il faut garder bah, soit l'effet de surprise, soit...
Oui, voilà.
Mais en fait, je sais pas, enfin, j'ai pas tellement réfléchi, quoi. J'étais là, je faisais un peu ce qu'on me disait de faire.
C'est un peu quand tu joues une partie décisive où tu connais très bien la variante et tu vas faire semblant de pas la connaître, non?
Ouais, ça c'est possible de bluffer dans l'échiquier.
Ben oui, parce que en fait finalement jouer aux échecs, c'est comme faire la guerre, mais sans faire la guerre, c'est pas une vraie guerre.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est quand même une guerre mentale, on va dire.
C'est une guerre mentale, mais c'est quand même une guerre sur un plateau, c'est pas une guerre avec des vrais hommes et des vrais chevaux et des vrais tours d'assaut.
Ouais, c'est moins violent, ouais.
Ouais, voilà. Donc, mais ça ressemble à la guerre, ça reste un jeu quand même aussi. Alors, mais j'ai noté aussi un autre point qui a attiré mon attention et je me suis dit quand même, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que apparemment, tu as joué une scène particulière, qui est la fameuse scène du baiser dans l'escalier.
Ouais.
Alors là, il faut absolument que tu nous parles de ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cet escalier? Alors, qui t'a embrassé? Donc, tu as fait un baiser de cinéma.
Ouais, bah avec Mickey, en fait.
Alors, qui c'est qui, Mickey?
Qui joue Cal, le rôle principal du film.
Ouais.
Et bah, c'est un peu un moment d'émotion du film, mais c'est plus un baiser d'amitié, on va dire. Où, en fait, mon personnage se confie, il est tout triste. Et en gros, Cal, donc ma Mickey, quoi, il lui remonte le moral.
Ouais.
Et voilà. Bah en fait, cette scène, on l'avait jamais répétée avant. Pour, je sais pas, Elodie voulait qu'on garde peut-être un aspect un peu naturel, improvisé, pas trop répété, parce que c'est pas forcément évident à jouer.
Ouais.
Surtout que, bon, moi en général. Je suis pas trop porté sur les garçons. mais en fait, non, mais c'est très bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de soucis. Je crois qu'en plus, ils ont gardé la première prise. On l'a quand même fait plusieurs fois. Hein, on refait toujours plusieurs fois les scènes, pour être sûr, et puis pour faire différents angles. Mais en fait, non, c'était bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Quoi.
D'accord. Donc... Ok, donc ça c'était la fameuse scène, donc c'est un baiser quand même qui pour le personnage est naturel, mais qui pour toi était contre nature. Hein.
Oui, bon bah, après c'est pas grave, hein. C'est pas le souci.
D'accord, donc alors bon, pour ta participation à ce film, donc le tournoi, donc qui a l'air tout à fait passionnant, donc l'histoire, hein, le personnage principal donc est un forcément donc un champion d'échecs. Et il va faire ce tournoi, et puis d'après ce que j'ai vu, hein, pour faire très court, mais il est plus ou moins favori du tournoi, mais il y a un petit génie qui le contrecarre un petit peu. Hein.
Ouais, c'est ça, qui lui renvoie aussi un peu l'image de ce qu'il a perdu lui-même.
Oui.
L'innocence, le plaisir du jeu, des choses comme ça. Et en fait, bon, bah, il y a le tournoi en soi. Donc il fait partie de l'intrigue, et aussi donc toute l'évolution du personnage principal, on va dire moralement, quoi, qui grandit en fait à travers cette histoire. Donc après, bien sûr, ça va assez vite, disons, dans la réalité, je pense pas qu'on puisse évoluer aussi vite en une semaine, mais c'est tout à fait assumé par Elodie, c'est un peu, bah, c'est pas un conte, mais en fait, voilà, on peut dire c'est un peu ça. Et donc il y a deux aspects, quoi. Dans le film, c'est-à-dire que ça serait pas un tournoi d'échec, il pourrait quand même se passer des choses comme ça, si c'était un autre jeu ou une autre compétition. Mais voilà, donc en fait, tout ce qui est parti échec, Elodie s'y est vraiment attachée à faire un truc crédible.
Ouais.
Et donc après, il y avait surtout l'histoire à côté qui est indépendante des échecs.
D'accord. Et il y a des grands moments de tension sur l'échiquier dans ce film. Est-ce qu'on voit des 8 notes? Est-ce qu'on voit des moments tendus un petit peu, pas forcément beaucoup, mais est-ce qu'il y a des moments où on ressent bien la dimension échiquéenne avec, je sais pas, par exemple, une petite combinaison qui est montrée sur une partie du tournoi ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a des moments échiquiens vraiment je dirais, visible.
Oui, en fait, bon, on voit un peu toutes les parties, mais après, sans qu'il y ait trop de longueur.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, en fait, le film s'adresse à tout le monde, pas forcément qu'aux joueurs d'échecs.
Oui.
Et donc, en fait, je pense que pour les non-initiés, c'est un peu chiant de...
Bien sûr.
De rester 10 minutes sur une partie. Donc là, en plus, il y a l'aspect jeu physique, c'est-à-dire les regards pendant les parties, ou même, donc, voilà, les take-notes, etc. Mais je pense, oui, enfin, on voit quand même des parties, on voit des positions clés, on voit aussi sur les écrans géants, il y a des parties retransmises.
D'accord.
Enfin, comme maintenant, en fait, hein, sur des écrans numériques.
Oui.
Donc, on arrive quand même à voir les positions et à comprendre ce qui se passe dans les parties.
D'accord. Et dernier point, quand tu es donc parti à Budapest, t'en as profité pour essayer de... pour appeler Peter Leko ou Judith Polgar?
Non, je les connais pas, en fait. Par contre, il y avait une fille sur le tournage qui était donc hongroise, qui travaillait dans l'équipe technique hongroise, qui est la sœur d'un grand maître, pour moi.
D'accord. Et lequel?
Gabor Fodor, je crois.
Ah oui, d'accord.
Qui est autour de 1500 quelque chose, quoi. Ouais, donc c'était marrant. Et puis, en fait, là-bas, on sent quand même que c'est un pays d'échecs. Tous les figurants savaient jouer.
Ouais.
Donc, peut-être pas forcément des grands joueurs, mais ouais, ils avaient tous appris et ils n'étaient pas là à forcément faire n'importe quoi dans la salle du tournoi.
Ouais.
Et voilà, mais même dans l'équipe, comme cette fille ou quoi, il y avait aussi des joueurs qui jouaient et à qui donc ça plaisait que ce soit un film sur les échecs.
Ok, super. Ben, en tout cas, ça a l'air passionnant. Hein. C'est un film évidemment à pas rater, parce que je crois qu'en France, le dernier film échiquéen un peu important, il me semble que c'est La Diagonale du Fou avec Piccoli.
Entre-temps, il y a peut-être eu... La joueuse aussi.
Il y a eu La joueuse, c'est vrai, mais qui est pas, et c'est vrai, avec Sandrine Bonner, c'est ça?
Oui, exact. Ouais.
Voilà, mais qui était peut-être pas aussi compétition que La Diagonale du Fou, qui était quand même un championnat du monde, hein, donc c'était quand même.
Non, tout à fait, oui.
Voilà, et c'était plus.
Plus l'émancipation, en fait, du personnage de Sandrine Bonner.
Voilà, c'était plus psychologique que disons, quand même centré jeu d'échecs. Là, ça a l'air quand même, ce tournoi, là, le film Sophie le tournoi, a l'air à la fois de raconter une histoire extra-échiquaine, mais a un aspect échiquien fort, puisqu'on joue un tournoi, donc on est quand même dans une ambiance de tournoi d'échecs.
Ah oui.
Voilà, donc c'est quand même très, très, on peut dire... Mais c'est vrai, il y a aussi ce film-là, La joueuse, c'est vrai. Après, il y a les films américains, mais ça, c'est encore autre chose.
Ouais, la recherche de Bobby Fischer.
Moi, oui, voilà, Searching Bobby Fischer, qui est un super film, d'ailleurs. Hein,
ouais,
je conseille, on retrouve aussi très bien l'ambiance du jeu d'échecs, d'ailleurs. Hein.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé ce film-là. D'accord, donc je crois qu'il faut absolument aller voir ce film. Moi, je vais le voir, c'est sûr. Donc, je crois que d'ailleurs, ce soir, tu vas avoir une avant-première à Paris.
Exact, ouais.
Et puis, donc on lui souhaite bien sûr tout le succès possible. Et puis, on en parlera sans doute après, parce que l'histoire d'un film ne s'arrête pas à l'année de sa sortie. Souvent, les films ont des histoires bien après.
Ouais, il y a une vie après, exact. Ouais.
Voilà. Merci beaucoup, hein, Fabien, pour cette, cette émission exceptionnelle avec toi. Merci. On te souhaite bien entendu de t'élever à 2600 ELO et plus, puisque c'est ton objectif, de façon à te qualifier pour le national des années à venir. Et puis de réitérer cette performance exceptionnelle donc, de ce tournoi de Reykjavik 2015. À 2737 points ELO, vous voyez, sur Fréquence Diagonale, on est au top niveau mondial échiquien, vous voyez. On a des stars du jeu d'échecs, dont fait partie, bien sûr, Fabien Libisowski. Merci beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois sur Fréquence Diagonale. Au revoir, Fabien.
Allez, au revoir, Stéphane, et puis au revoir à tous.
Et donc, je vous laisse sur notre générique fétiche Broken Embraces sur Fréquence Diagonale. Au revoir.
Au revoir.